Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement congolais et ses partenaires ont officiellement lancé mercredi 28 janvier à Kinshasa le plan de réponse humanitaire pour l'année 2026. Dans un contexte de baisse drastique de l'aide internationale, les autorités congolaises et les Nations Unies appellent à une gestion rigoureuse des ressources pour venir en aide à des millions de déplacés internes. La RDC fait face à une équation complexe, une recrudescence des conflits dans l'Est entraînant des déplacements massifs de populations, alors que le financement mondial de l'aide publique au développement connaît une chute sans précédent. Selon les statistiques publiées en juin dernier par le Bureau de coordination humanitaire OCHA, en RDC, plus de 6 millions de Congolais vivent actuellement en situation de déplacement forcé, conséquence directe de l'insécurité persistante dans plusieurs régions du pays, causée notamment par l'occupation des villes de Goma et Bukavu par le mouvement rebelle de l'AFC M23, des ADF en Ituri et dans d'autres territoires, et la milice Mobondo dans l'Ouest, ainsi des catastrophes naturelles et d'autres crises humanitaires. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré en octobre dernier, lors de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, à Paris, que la situation humanitaire en RDC est l'une des plus graves au monde. Alors, quelle analyse faire de la situation humanitaire en RDC? Pour en parler, nous recevons pour ce numéro de dialogue entre Congolais Chantal Faïd Moulenga Biouma, qui est analyste indépendante et cofondatrice de OMA ASBL, une ONG basée au Nord Kivu. Chantal Faïd Biouma, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Jean Gandou, et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Merci, madame. Il y a Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire des Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Bonsoir, Jean Gandou. Bonsoir co-débatteurs, bonsoir également à toute la population de l'Est de la République, bonsoir à tous les auditeurs également de la Radio Okapi.
Merci. Symphorien Kwengo, coordonnateur national du réseau des ONG de défense des droits des déplacés internes en RDC. Symphorien Kwengo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Jean, et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi qui nous suivent à travers le monde.
Merci à tous, bienvenue dans Dialogue entre Congolais.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Bonne nouvelle pour des milliers de déplacés internes et externes victimes des conflits dans l'est de la RDC avec le lancement du plan de riposte de réponse à leurs besoins humanitaires. Ce plan, il faut le dire, vient pallier à la baisse du financement de l'aide humanitaire par différents pays, notamment les États-Unis. Et justement, face aux difficultés financières, Eve Bazaïba, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, exhorte les acteurs humanitaires à utiliser les fonds alloués à l'aide humanitaire de manière rationnelle. Les détails avec John Tchibouaboua.
La RDC demeure confrontée à une crise complexe marquée par des conflits persistants, des déplacements massifs et les sous-financements de l'aide humanitaire. Pour Bruno Lemarquis, coordonnateur des opérations humanitaires, la situation est dramatique.
Alors l'heure est grave parce que on fait face à une situation un peu particulière en RDC. D'une part, il y a la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC avec énormément de mouvements de population. Ça, c'est un. Et ça a également intervenu 2025, une année où il y a eu une baisse drastique au niveau mondial des financements de l'aide publique au développement et de l'aide humanitaire. Donc, la RDC a été particulièrement touchée par ces coupes financières.
Un cadre sera mis en place pour la collecte des fonds à l'aide humanitaire. F. Bazaïba.
Et grand problème de aujourd'hui la consolidation des ressources. Le peu de ressources qui seront mises à notre disposition du point de vue sectoriel, nous devons les utiliser de manière rationnelle. Le gouvernement de la République, tout en continuant à espérer à l'appui international, mais le gouvernement va tenir compte aussi de ses efforts propres. Nous allons donner ces cadres-là pour la collecte des biens que nous avons.
Notez que cette rencontre a connu la participation de la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, et celle du genre, Micheline Kalama.
Merci John Tchibouaboua. Chantal Faïda Moulenga Biouma, vous êtes analyste indépendante et cofondatrice de OMASBL, une ONG basée au Nord Kivu. Alors dites-nous, et quelle analyse faites-vous de la situation humanitaire en RDC au regard de tout ce que vous venez de suivre?
Merci beaucoup. beaucoup pour la question. J'aimerais exprimer ma compassion aux familles affectées par les trois décennies de conflits sécuritaires à l'est de la RDC et dire que nous avons perdu plus de 44 Congolais au Burundi à la suite de manque de soins de santé et également des kits alimentaires pour ces compatriotes. Et donc, c'est vraiment dommage qu'au XXIe siècle, nous puissions enregistrer de pertes en vies humaines, de suites de famines. C'est vraiment inacceptable. Alors, par rapport à l'actualité, je dois vraiment saluer l'initiative du gouvernement qui cherche à recouvrer sa souveraineté humanitaire avec beaucoup d'initiatives, hein, telles que les cadres stratégiques de réponse humanitaire. Et très récemment, le ministère des Droits humains a lancé un atelier d'évaluation des incidents graves des crimes de droits humains commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que Ituri jusqu'à 10 jours. Et donc ça montre quand même un élan interne, institutionnel, en termes des ripostes. Mais sur le terrain, la population est fatiguée de se déplacer à chaque fois qu'il y a agression étrangère. Je vais citer les Rwandais qui ne cessent d'endeuiller les vies humaines. Et donc, pour l'instant, la demande ultime de la population, c'est la paix et la sécurité. Et ce n'est pas beaucoup demandé, parce que l'État a l'obligation, nous référant à l'article 16, de garantir la sécurité des vies humaines. La vie humaine est sacrée et l'État doit beaucoup plus investir des ressources pour que toutes les vies humaines soient sécurisées. Ça, c'est la première requête de la population avant de songer à une réponse urgente, parce que c'est l'urgence qui est déclarée avec plus de 7 millions de compatriotes qui sont en déplacement et les besoins sont immenses, aussi bien en interne qu'au niveau des pays étrangers qui ont accueilli des réfugiés congolais. Et du point de vue des sécurités alimentaires, nous enregistrons un manque criant, comme l'a dit les reportages, de l'appui international, de la communauté internationale. Et donc, ça doit nous rappeler nos obligations en tant qu'État, de nous prendre en charge, parce qu'il s'agit de populations congolaises qui sont sous l'autorité du pouvoir public. Et les pouvoirs publics doivent investir dans les budgets alloués à l'action humanitaire. Et aujourd'hui, on ne sent pas une augmentation de cette enveloppe budgétaire liée aux questions humanitaires.
Mais voilà, considérant l'ampleur de la situation, y a-t-il espoir que cette crise soit résolue, surtout dans ce contexte de rétrécissement budgétaire?
Oui, je pense qu'avec des pistes de solutions au niveau interne, c'est-à-dire mobiliser l'élan national, parce que c'est une question d'État, c'est une question nationale. Et nous avons même l'article 66 de notre Constitution qui nous rappelle que la solidarité nationale est obligatoire, surtout quand les besoins se présentent. Et là, nous sommes à 3 décennies de crise. Nous parlons de 7 millions de personnes qui sont en déplacement, c'est-à-dire en dehors de leur résidence habituelle et qui ont besoin de tout. Donc la sécurité alimentaire, les soins de santé, les abris et la protection de manière générale.
Merci beaucoup Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma. Je rappelle que vous êtes analyste indépendante et cofondatrice de OMASBL, une ONG basée au Nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, que dites-vous de cette situation?
Bon, merci beaucoup pour cette invitation, hein. Je voudrais également présenter ma compassion en fait toutes ces populations qui sont victimes de cette barbarie et qui aujourd'hui sont obligées de vivre une vie en errance sans savoir comment sera le lendemain. Je crois, comme vous le savez, en tout cas à l'est de la République démocratique du Congo traverse un moment très difficile, en commençant par Uvira, vous descendez Calais, Kabare, Masisi, Walikale, où il y a des affrontements récurrents qui occasionnent chaque jour des déplacements des populations, des morts des gens, des enfants qui ne savent pas comment aller à l'école, des femmes violées qui ne savent pas avoir de soins. Vous arrivez au Nord Kivu, c'est la même chose, en tout cas dans le Masisi, c'est la même chose. Vous arrivez dans la zone de santé de Pinga, dans les Walikale, il y a des ruptures de médicaments, pendant qu'il y a plus de 597 420 habitants affectés par la situation dans la zone de santé de Pinga, parce qu'il n'y a pas non seulement l'accès, mais il y a plein de déplacés, mais des stocks de médicaments terminé. Vous arrivez dans le territoire de Rutshuru, où en tout cas c'est encore une catastrophe, où en tout cas on a fait beaucoup de déplacés dans plusieurs groupements, Bukombo, Tongo, descendus des maisons qui obligent aux gens de fuir vers des zones plus ou moins sécures. il y a des sites de santé qui sont sérieusement pillés, notamment le centre de santé de Ngorolo. Dans les Loubéros, c'est la même chose. Il y a deux camps de déplacés avec l'activisme des ADF qui a obligé aux populations de fuir leur milieu, sans oublier bien sûr les affrontements dits au M23. Donc bref, c'est un problème très sérieux. Quand vous allez dans l'Ituri, là c'est encore très sérieux parce que depuis 2017 jusqu'aujourd'hui, il y a des milliers de populations qui sont déplacées et dont l'aide humanitaire, en tout cas, n'arrive même pas à satisfaire le minimum de leurs besoins. Je peux vous dire, en Ituri, il y a plus de 70 sites de déplacés en Ituri. C'est quand même énorme et tous ces gens-là sont dans les besoins d'aide humanitaire. Et avec toute cette situation, c'est quand même quelque chose qui devait interpeller non seulement notre gouvernement, bien sûr aussi avec ce partenaire. Et donc, nous pensons qu'avec ce cadre qui vient d'être mis en place, tel que la ministre a dit, c'est vrai qu'il faut mobiliser des ressources pour appuyer ces populations, mais il faut noter que la mobilisation est une chose, mais aussi l'exécution ou la mise en pratique de ces sites qui seraient mobilisés en est encore une autre chose. Nous avons appris aussi également que sur le plan international, il y a une forte mobilisation de l'aide humanitaire. C'est encore une chose, mais partant de l'expérience du passé, parce que moi qui vous parle, je suis déplacé depuis 2022, j'ai vu comment les gens ont souffert dans les camps déplacés autour de la ville de Goma. Je peux vous dire que c'est vraiment très, très honteux de voir comment les choses se passaient, ou de l'aide arriver, mais les gens qui suivaient de l'aide, qui ne sont pas même déplacés, ça faisait quand même peur. Quand on voit comment les humanités arrivaient avec de l'aide, mais il y avait beaucoup de gens qui venaient travailler, et à la fin de compte, ce n'est même pas 30% de l'aide qui arrivait à la population parce que il y a des gens qui suivaient des salaires, des primes, de tout ça. Et on s'est dit, est-ce que c'est un droit des gens encore, même si on mobilise cet argent-là, est-ce que ces populations seront soulagées?
Et qu'est-ce que vous
c'est
proposez?
Ça, le réel problème.
Vous proposez
bien évidemment, comme a dit Mme Chantal Faïda,
oui.
Je crois que la mobilisation, c'est une bonne chose. De la même manière qu'on se mobilise pour mobiliser de l'aide, permettez-moi la tautologie, on devait plutôt se mobiliser pour attaquer la cause de ces déplacements de population. Et la cause, c'est la guerre. Pourquoi nous, on ne se mobilise pas sérieusement pour mettre fin à cette guerre, surtout qu'on connaît déjà les auteurs, on connaît déjà les tirés de ficelles, on connaît les puissances qui sont derrière cette guerre, et donc pour nous, je l'ai toujours dit, au nord qui vous, à l'est de la République, la population aime bien travailler. Elle n'est pas à l'aise avec la vie de la mendicité. Et donc, si on lui accorde la paix, elle n'a jamais besoin de cette aide-là. Et donc, la plus grande préoccupation, le besoin principal que la population déplacée, sinistrée de l'est demande, c'est la restauration de la paix pour qu'elle rentre chez elle, afin d'aller vaquer à ses occupations. Une chose aussi très importante, c'est que pendant que même l'international se mobilise pour que l'aide arrive, vous avez suivi la dernière fois quand le président de la République était en France, il a rencontré le président Macron, on nous chantait que l'aéroport de Goma va rouvrir pour que l'aide arrive. Malheureusement, ceux-là qui nous insécurisent, ceux-là qui ont créé ces drames, refuse que l'aéroport soit fonctionné pour que l'aide arrive.
Nous allons y revenir.
Ça, c'est un problème très sérieux.
Jean-Claude Babazé, nous allons y revenir, mais quand vous dites que bien qu'on mobilise les fonds, on ne fait pas assez pour que la paix soit une réalité dans le Nord Kivu. Et donc, d'après vous, tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement, tant à l'interne qu'à l'externe, ne valent rien pour vous?
Non, en tout cas, je crois que nous saluons ces efforts et nous les encourageons, nous les soutenons. Mais il faut dire qu'il faut faire plus.
Merci.
Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que même au niveau de l'Afrique, par exemple, l'Union africaine n'a jamais condamné les agresseurs. Aujourd'hui, on parle d'une chose, mais Ce qu'on trouve sur le terrain, c'est que la guerre continue.
Merci.
Donc, pour nous, nous pensons que malgré les efforts, on va arriver à mettre fin à la guerre.
Merci. Donc, nous allons chez Symphorien Kwengo, qui est coordonnateur national du réseau des ONG de défense des droits des déplacés internes en RDC. Symphorien Kwengo, et la même question vous est posée. Quelle analyse faites-vous de la situation humanitaire en RDC?
Ok. Monsieur Jean Kourou, pour la question. Nous n'avons pas allé pour dire que la situation.
En tout cas, votre ligne n'est pas très bonne. Est-ce qu'il y a moyen de bouger un tout petit peu pour que nous vous captions dans de très bonnes conditions? Est-ce que vous le faites à main libre? Prenez votre téléphone, accrochez-le à votre oreille et puis vous allez parler. Allez-y.
Oui, donc je suis en train de dire que la situation des déplacés internes dans notre pays est très chaotique, comme vous pouvez l'imaginer.
Est-ce qu'il y a moyen de fermer la radio qui est à votre côté là?
Non, je n'ai pas de radio.
Diminuez, d'accord, merci.
Je n'ai pas de radio.
Allez-y.
Donc je suis en train de dire que la situation des déplacés internes dans notre pays est très chaotique. Vous le savez, les déplacés congolais ne sont pas toujours assistés par notre gouvernement. Et aussi, les déplacés sont abandonnés à leur triste sort. Notre gouvernement pense que l'assistance des déplacés n'est pas dans ses prérogatives. Ce n'est pas son affaire. C'est plutôt l'affaire des structures du système des Nations Unies et des ONG nationales et aussi internationales. Après plusieurs alertes que nous avions lancées pour pousser notre gouvernement à agir, bon, nous ne savons pas pourquoi jusqu'à ce jour. Ces alertes n'ont pas pratiquement trouver un écho favorable auprès des ministères sectoriels pour pouvoir assister les déplacés internes dans notre pays.
Vous pensez que depuis
cette
lors,
situation-là nous
s'il vous
préoccupe
plaît,
au plus haut point.
Symphorien, vous pensez que
vous savez bien,
Symphorien,
Monsieur Jean Gandou,
oui,
le plus étonnant dans tout ça, c'est quoi? C'est quand nous voyons certains individus, membres du gouvernement central, gestionnaires des entreprises publiques de l'État, et même certains animateurs des institutions provinciales, sans état d'âme, s'il vous plaît, détourner des grands fonds en termes de milliers de francs congolais, et que par la suite, notre gouvernement dise qu'il n'a pas de moyens pour devoir assister les déplacés internes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et vous avez suivi ce qui a été dit par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui dit que la situation des déplacés internes en RD Congo est la plus importante à travers le monde. L'aide sera accordée pour pouvoir assister les déplacés. Mais quelle est la quote-part de notre gouvernement? Nous devons entrevoir la possibilité d'organiser un mécanisme devant permettre au gouvernement de collecter les fonds localement. Et cela passe par la mise en place d'une structure étatique. Voilà pourquoi, par exemple, au niveau de notre réseau, nous avions entrepris une série d'actions de plaidoyer destinées au gouvernement de la République et à l'Assemblée nationale en vue de mener des actions de plaidoyer pour l'adoption de la loi portant protection des déplacés internes en RDC. Deuxième action de plaidoyer, la création de la Commission nationale d'assistance aux déplacés internes. Même si Madame la ministre d'État annonce en pompe que des fonds peuvent être collectés au niveau national, mais quelle est la structure étatique, quel est son nom, le nom de cette structure étatique qui sera chargée, n'est-ce pas, de pouvoir gérer ces fonds-là.
Nous avons écrit au gouvernement. Madame la ministre d'État a la copie de ces documents. Et même au niveau de l'Assemblée, on a proposé la création de la Commission nationale d'assistance aux déplacés internes. C'est ce cadre-là qui va représenter l'organisation et le fonctionnement de tout ce qu'il y a comme problème en relation avec l'assistance des déplacés internes dans notre pays.
Voilà. Troisième. Oui, Symphorien, si vous pouvez aller vite, oui.
La création du Fonds national d'assistance aux déplacés internes. Il faut matérialiser cette vision-là de pouvoir mobiliser les ressources à l'interne en mettant sur pied un Fonds national d'assistance aux déplacés internes appelé FONAI RDC. Et enfin, il y a l'adoption et la mise en place de la politique nationale sur les déplacés internes. Nous n'avons pas une politique nationale pour pouvoir parler de déplacés internes. Donc sur le plan juridique, il n'y a absolument rien. Maintenant, on va mobiliser les fonds. Dans quel cadre? Et quel cadre ou quelle structure qui va s'occuper de la gestion de ces fonds?
Et donc, la
voilà
question,
ce qui a été proposé par notre structure au niveau de notre gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale.
Merci, Séphorien Kouengo. Les tours de table étant faits, nous allons passer à cette question qui nous vient d'un auditeur de Bukavu. Et cette question est adressée à Madame Faïda.
Héritier Zahinda de Bukavu, la situation humanitaire à l'est de la RDC est catastrophique à cause des guerres à répétition, surtout à cause de la guerre de la F-123. Vraiment, cette réponse humanitaire est d'une urgence et d'une importance capitale, puisque si nous regardons ce que traversent des déplacés de guerre, ça donne des larmes aux yeux. Puisque certains meurent à cause de la famine, les autres à cause des maladies contagieuses, par manque de médicaments, etc. Alors, je me demande s'il y a un plan pour disponibiliser une équipe permanente qui pourra assister régulièrement les déplacés pour éviter l'assistance des charmes pour flouer le monde que les déplacés sont assistés. Or non, y a-t-il un moyen que certains déplacés puissent retourner dans leur milieu, surtout dans les milieux où l'accalmie semble revenir, tel qu'à Uvira, à Bukavu et d'autres endroits, mais sous le leadership des Nations Unies en collaboration avec les belligérants là où ils occupent, en utilisant le principe de la personne humaine est sacrée.
Madame Chantal Faïda Moulengwa Biuma, alors cette question vous est adressée, comment est-ce que vous y répondez?
Oui, en tout cas, je vais répondre à Monsieur Héritier en précisant que notre gouvernement a, dans son rapport sur l'examen périodique universel présenté au Conseil des droits de l'homme à Genève en 2024, a renseigné avoir mis sur pied un certain nombre d'institutions. Et je vais citer ici la Caisse de solidarité nationale des gestions humanitaires et des catastrophes.
Donc, en même temps, vous répondez à l'intervenant tout à l'heure, c'est votre co-débatteur, hein?
Oui,
c'est
oui.
Banzé, voilà.
Oui, donc il y a aussi, ils ont promis, mais ce n'est pas encore mis sur pied, l'instauration d'un observatoire de stabilisation des familles. Ça veut dire qu'ils ont compris et analysé que toutes les crises sécuritaires que nous vivons en RDC, c'est un complot contre les familles. Parce qu'on sait très bien que la famille, c'est la cellule mère de la société. Et avec les crises sécuritaires récurrentes, nous créons des orphelins, des veufs, des veuves, et nous séparons certaines familles. Et là, on est en train de déstructurer la société. Et demain, on ne pourra plus avoir une nation soudée. C'est ainsi que la mise sur pied de cet observatoire va peut-être essayer de ramener la cellule mère qu'est la famille au niveau du centre des priorités du gouvernement. Et donc, ces institutions existent. Les plaidoyers devraient plutôt se pencher au niveau de l'enveloppe budgétaire allouée à la mise en œuvre de ces institutions. Donc, du point de vue juridique, nous avons un bel arsenal, bien qu'il reste certains mécanismes d'alerte et des réponses humanitaires à mettre en place, mais l'enveloppe budgétaire. C'est ainsi que j'ai commencé en disant qu'on doit avoir une souveraineté humanitaire. Il ne faudrait pas que l'enveloppe, parce qu'aujourd'hui au Tchad nous parle de 1,4 milliard de dollars pour assister 14 millions de personnes dans les besoins. Mais quand vous voyez, au Tchad renseigne qu'ils ont été capables de mobiliser 24% de ces montants-là. Alors les restes de l'aide recherchée, comment est-ce que le gouvernement n'a pas été en mesure de trouver ça? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie parce qu'il n'y a pas eu assistance. Et là, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est ainsi qu'on appelle au Parlement, On appelle au gouvernement de prendre des actions de grande envergure pour sauver des vies. Parce que quand on parle humanitaire, il s'agit des vies qui sont en danger. Si on n'agit pas à l'instant, nous allons perdre des compatriotes valeureux qui peuvent aider la nation à aller de l'avant. C'est ainsi que d'autres stratégies à mettre en place, c'est soutenir les défenseurs humanitaires, les défenseurs de droits de l'homme. Nous avons cette loi qui protège les défenseurs de droits humains, mais la mise en œuvre continue à poser problème. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas vulgarisée, elle n'est pas traduite en langue nationale.
Pourquoi?
Et les défenseurs, parce que le gouvernement n'a pas encore mis des ressources sur place. Et les défenseurs,
est-ce que vous faites les plaidoyers dans ce sens-là?
Oui, nous faisons beaucoup de plaidoyers.
Et qu'est-ce qu'on vous répond?
Il y a même la commission, la CNDH qui est au courant de ces plaidoyers pour que la loi portant protection de défenseurs de droits humains commence à être vulgarisée en langue nationale pour que les gouvernements et même les belligérants, parce que l'auditeur héritier a fait mention des belligérants qui doivent accepter les respects de droits humains en dépit du fait qu'ils contrôlent certains espaces du territoire congolais. Et donc, si la CNDH et tous les autres mécanismes essayent vraiment d'assurer une coordination robuste pour que l'aide arrive à destination et de manière urgente, et ça aide à soulager la misère des compatriotes, nous verrons un changement, un début de respect des dignités humaines et des justices sociales. Mais sans oublier que les efforts de paix, comme vous l'avez mentionné, doivent être accélérés parce qu'on a tendance à penser que les gouvernements, les institutions de la République prennent tout leur temps de trouver la solution à l'occupation illégale que nous condamnons des espaces entiers de la RDC, la partie est de la RDC. Plus les belligérants prennent du temps, plus la communauté locale a tendance à penser que ce sont eux les décideurs. Et quand ce sera le moment de les faire partir, il y aura encore d'autres atrocités et c'est ça qu'on évite. Donc c'est la raison pour laquelle on est en train de parler d'une année des mémoires d'hommage aux martyrs de l'unité nationale, qu'on puisse signer, s'il faut signer des accords, s'il faut passer à la solution de coopération, la solution militaire, mais pourvu que la paix revienne, parce que c'est possible de ramener la paix. Toutes les autres nations sont passées par les décennies de crises, mais ils ont oublier cela, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un mécanisme pour ramener la paix et la sécurité et la population pourra se prendre en charge.
Merci beaucoup Madame Faïda Mlengabiouma. Et là c'est une autre question, cette fois-ci qui est adressée à Jean-Claude Mbabazé, elle nous vient de Kinshasa.
Georges Junior Ngwezi Tingoma, dans la commune d'Insélé. Pour une bonne assistance humanitaire en RDC, il faut que l'État congolais puisse développer l'agriculture, la pêche et l'élevage, afin qu'il y ait une grande production des denrées alimentaires, au lieu d'attendre les riz de la Chine et consorts. Car ceux qui sont en déplacement souffrent d'une grande famine qu'aucun étranger ne peut maîtrisé à 60%. Aucun gouvernement n'a pensé à investir des milliards de dollars dans l'agriculture, dans la pêche et l'élevage, alors que les Congolais mangent très mal, même quand il y a la paix sur toute l'étendue de la RDC. À combien plus forte raison, dans cette période de guerre, nos mains sont toujours tendues vers l'extérieur, même pour recevoir des riz et de l'eau potable. En plus, il faut un comité de suivi. Quand le gouvernement envoie la petite aide, parce que le détournement est dans les veines des Congolais.
Voilà, Jean-Claude Mbabazé, cette question vous est posée, elle nous vient de Kinshasa, de la part de Georges Junior.
Oui, bon, je crois que je suis vraiment d'accord avec notre ami Georges Junior. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas développer un pays tant qu'on néglige les secteurs, en tout cas agricoles, les secteurs de l'élevage, la pêche, comme il l'a dit. Mais le problème réside encore une fois, c'est que comment on va faire l'élevage, comment on va faire l'agriculture pendant qu'il y a des armes qui crépitent à côté. Il faut voir, vous voyez, au niveau de l'Est, toutes les zones où il y a la guerre, c'est des zones où, en tout cas, on pratique l'agriculture. Pratiquement, les gens vivent de l'agriculture, de l'élevage, et une partie même de la pêche. Mais toutes ces zones-là, c'est des affrontements récurrents, à telle enseigne que même les gens n'ont plus accès à leurs champs. Et au moment que les gens n'ont pas accès à leurs champs, ça va être un problème très sérieux de penser à l'agriculture. Et c'est pourquoi tout est tributaire à la paix. C'est pourquoi j'ai toujours dit que il faut que d'abord on cherche à éliminer les causes qui sont la guerre et l'envahissement que nous connaissons. Du moment que cette guerre sera terminée, et là maintenant on pourra penser à l'agriculture pour appuyer nos populations. Bien évidemment, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que imaginez-vous, on amène parfois des produits, je vais dire, avariés, qu'on amène aux populations. Vous trouvez qu'il y a des haricots qui vont venir de la Chine, c'est pas moi d'où, qui ne sont pas même conformes à ce que nous prenons ici chez nous. Ça crée un problème. Et donc, je suis vraiment d'accord avec lui qu'il faut penser à ça. Le gouvernement devait en tout cas avoir une très bonne politique, pas se limiter seulement aux textes, pas seulement se limiter aux discours politiciens, mais aller plutôt dans les actions. C'est quand même inconcevable aujourd'hui qu'on parle de la famine dans notre pays, alors qu'on a autant de milliers d'hectares de terres arables. C'est vraiment anormal. Le ministre de l'Agriculture et le gouvernement tout entier devraient réfléchir dans le sens d'améliorer les conditions de nos populations par rapport à l'agriculture et l'élevage. Il a parlé de comité de suivi. Je l'ai mentionné tantôt, que c'est vrai qu'on va mobiliser de l'argent, mais est-ce que tout ce qu'on mobilise va vraiment arriver sur le terrain? J'ai parlé de l'exemple qu'on a connu dans le passé par rapport au camp des déplacés. Il y a des autorités qui avaient été arrêtées même parce qu'ils ont détourné de l'aide humanitaire. Ça, c'est un problème. Mais aussi, pour aller plus loin, je voudrais encore une fois revenir aussi par rapport au gouvernement, parce que quand on parle de gouverner, c'est prévoir. On a parlé, Madame Chantal venait de le dire, non seulement des structures, oui, mais dans les budgets du gouvernement. C'est vrai qu'on va mobiliser avec un cadre qui va mobiliser ça. Mais au sein du gouvernement, qu'est-ce qui est prévu? Parce que c'est un peu plus de 4 ans qu'on a des déplacés qui continuent à s'ajouter. Mais qu'est-ce qui est prévu dans les budgets? Qu'est-ce qui sort réellement pour venir appuyer les déplacés que nous sommes? Et aussi, comme je l'ai dit, vous allez voir, quand il y a même un petit rien qui arrive, autour de cette aide-là, c'est des drapeaux des partis politiques, comme si on veut marchander les déplacés. C'est anormal. On ne doit pas, en tout cas, autoriser que des politiciens viennent, en tout cas, se moquer des populations avec n'importe quoi, et qu'il faut suivre avec des drapelés, comme si vraiment c'est pour eux un moment de campagne, alors qu'il y a des souffrances, les gens qui sont de souffrir, profiter de la souffrance de la population pour aller se vanter. C'est quand même quelque chose que nous devons décourager, et nous conseiller au gouvernement de prendre ça au sérieux. Les déplacés ont aussi droit à la vie, ils ont aussi droit à la dignité, et cette dignité ne peut venir que de son gouvernement qui est garant des droits de ces déplacés-là. Madame parle aussi des défenseurs des droits de l'homme. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme vivent une situation très catastrophique. À Kinshasa, à Bujumbura, partout, ils ont fui la guerre, mais ils ne sont même pas assistés. Aucune assistance, c'est quand même pas normal. Mais voyez aussi même des zones qui sont affectées. Il n'y a pas de mesures, par exemple des allègements fiscaux, des déclarations de zones sinistrées pour appuyer ces provinces-là qui connaissent la guerre pour s'auto-prendre en charge et afin aussi d'aider ces déplacés-là. Donc c'est des mesures-là qui doivent suivre ces actions du gouvernement pour permettre que ces déplacés-là puissent avoir de l'aide et pas seulement dans les mots, mais de l'aide convenable. Parce que vous allez amener peut-être des kilos pour un mois pour une famille. Est-ce que c'est vraiment l'aide? Non. Donc, tout ça, ça doit être pris en compte.
Merci beaucoup Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Et Symphorien Kwengo, cette question est pour vous, elle nous vient de Goma.
Maître Francis Visso depuis Goma. Personnellement, je félicite ces plans de réponse humanitaire que le gouvernement vient de lancer avec ses partenaires. Mais nous aimerions que ce projet prenne corps, parce que nous voyons souvent des chapelets de bonnes intentions dans notre pays. Après des annonces avec pompe, des initiatives qu'on loue avec beaucoup plus de vigueur. Mais en un moment, on en constate que dans la pratique, soit il y a corruption, soit il y a détournement, soit rien ne s'est fait. Nous voudrions que cette fois-ci, cette réflexion soit concrète et que ces déplacés internes bénéficient de cette politique mise en place pour leur sortir de cette situation qu'ils traversent. La situation est tellement horrible que l'assistance est tellement nécessaire.
Voilà, et Symphorien Kwengo, cette question vous est adressée, ou cette réflexion est à vous. Comment est-ce que vous y répondez?
Ok, merci beaucoup, M. Jean Gandou, et à tous les auditeurs de la Radio de la Paix qui nous écoutent à travers le monde. Je voudrais saisir la balle au bon pour pouvoir faire une mise au point avec notre maman, notre co-débattrice,
par rapport... Madame Faïda.
Madame Faïda, oui, merci beaucoup. Nous avons également proposé l'intégration d'une ligne budgétaire dans le budget. Tout le monde le dit, dans le budget national, quelle est la part qui revient à la prise en charge des personnes déplacées internes dans notre pays? Cela n'apparaît pas clairement. Et nous avons mené des actions de plaidoyer tout en adressant des courriers, en dessinant des messages au bureau de l'Assemblée nationale pour pouvoir intégrer une ligne budgétaire devant s'occuper de la prise en charge des personnes déplacées internes. Ça, c'est un 2-2. Parlant de la caisse, oui, nous le savons, la caisse existe. Contre toute attente, ces efforts ne sont pas très perceptibles. Nous aimerions que la caisse soit sur le terrain, en train de rencontrer les desiderata, les préoccupations majeures des personnes déplacées internes qui vivent dans des conditions de pauvreté que nous ne pouvons pas décrire. C'est ça que nous voulons, que la caisse soit sur le terrain pour accompagner les déplacés. Et nous, nous sommes là comme structure de la société civile ayant les lieux de cette thématique pour pouvoir pousser notre gouvernement à donner les moyens conséquent pour pouvoir prendre en charge les déplacés internes.
Voilà, maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à la question de
par rapport à la préoccupation
de notre ami, de Maître Francis Visco.
Maître Francis, oui, qui nous appelle de Goma. Oui, mais il a raison qu'il développe ou qu'il présente quelque peu d'hésitation par rapport à ce plan. C'est un bon plan présenté par Madame la ministre d'État. Les plans, il y en a toujours eu, avec pompe, avec fracas, on les présente, mais au bout du compte, les résultats ne suivent pas. C'est que, il a raison de dire que ce qu'il veut, c'est la matérialisation de ces plans, que nous pouvons juger d'ambitieux, que ces plans soient matérialisés. Et pour que ces plans-là soient matérialisés, très cher Jean Gandou, auditeur de la Radio de la Paix, qui nous écoute à travers le monde, nous ne pouvons pas parler de la situation des déplacés internes dans notre pays sans pour autant faire une allusion à la convention de Kampala à laquelle notre gouvernement avait souscrit. Puisque la convention de Kampala, c'est le texte par excellence qui régente l'organisation, le fonctionnement et même la prise en charge des personnes déplacées internes. Selon cette convention, la RD de notre pays a l'obligation de protéger les déplacés internes. Surtout les femmes, les enfants, les personnes vivant avec handicap et les personnes de troisième âge. Mais on se rend compte que à l'est comme à l'ouest, dans les camps de déplacés, il y a beaucoup de cas de décès parmi les enfants, parmi les vieillards. Et il y a aussi le problème de malnutrition. La deuxième responsabilité de notre gouvernement, c'est assurer l'assistance humanitaire, c'est-à-dire fournir ou faciliter l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins de santé, à l'abri et à l'éducation. Et enfin, faciliter le retour des volontaires, donc le retour des déplacés internes, un retour plutôt volontaire, qu'ils rentrent chez eux si les conditions de sécurité sont garanties.
Voilà.
C'est à cela que notre gouvernement doit s'atteler.
Merci,
comme
merci
garant de la sécurité
merci,
des personnes déplacées internes dans notre pays.
Madame Faïda, et vous avez été citée par Saint-Faurien tout à l'heure, comment est-ce que vous répondez à sa préoccupation?
Oui, dans le même rapport examen périodique universel 2024, le gouvernement a rapporté avoir mis sur pied des fonds de solidarité provinciaux pour se rapprocher des personnes vulnérables qui sont dans les besoins. Mais en tant qu'acteur de la société civile, il serait mieux d'aller auditer, par exemple, le gouvernement provincial pour savoir quelle est l'enveloppe budgétaire allouée à ces mécanismes au niveau de province. Parce que la caisse au niveau national, elle reste complexe, elle reste centralisée. Mais si on se rapproche des provinces qui sont touchées, affectées par les crises humanitaires, on peut interroger l'enveloppe budgétaire pour remédier ou répondre aux demandes des compatriotes dans les besoins. Cependant, pour les provinces du Nord et Sud-Kivu, les institutions qui sont établies sont des institutions de fait qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas légitimes. Et donc, c'est très difficile pour la société civile de demander des comptes à ces institutions. Alors, si on trouve, si on fait une marche en arrière, c'est demander la paix et la sécurité pour qu'on puisse demander des comptes aux institutions établies. Et c'est ça notre plaidoyer. Et c'est possible de parvenir à la paix parce que nous sommes de ceux qui soutiennent la proposition des évêques pour avoir un dialogue national. On a longtemps cherché la paix partout dans toutes les capitales internationales. On ne l'a pas trouvée. Et je pense qu'il est temps d'essayer de remettre en question et de trouver une solution en interne parce qu'on a des intelligences au niveau de la RDC qui peuvent proposer des mécanismes durables.
Merci Madame Faïda. Il y a Maître Dodé Tokinda qui nous appelle depuis Kisangani et nous a écrit, qui dit ceci: les conflits intercommunautaires tels les cas Mbole Lengola dans la Tchopo est également à la base des déplacements forcés de plusieurs familles ainsi que de mendicité infantile dans la ville. Le mal maintenant reste l'inadéquation entre les modifications constatées au niveau des aides internationales humanitaires, entendu que les pays étaient déjà habitués à résoudre une bonne partie de ces cas à travers ces aides. Toutefois, il est aussi bon, continue-t-il à dire, à ce que cela arrive pour nous inculquer l'autoprise en charge en espérant beaucoup plus sur nos propres moyens que sur les moyens externes. Cela renforcera sans nul doute notre considération aux yeux du monde, car il est irrespectueux au 21e siècle pour un État de ne pas vivre la sagesse cachée derrière l'adage « si tu me donnes un poisson, je mangerai et j'aurai faim après, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim ». Voilà ce que dit Maître Dodé Tokinda depuis Kisangani. Un petit mot en rapport avec ceci, Jean-Claude Mabazé.
Il a rejoint tout ce qu'on a dit, hein. Parce que je crois que dans ce qu'il a dit, c'est pratiquement tout ce qu'on a dit, parce que nous, on a dit, bon, pourquoi le gouvernement, c'est lui qui est garant même de la vie de sa population, et les déplacer, c'est en principe le gouvernement qui devait prendre les devants, et comme on l'a toujours dit, les partenaires viendraient après en appui au gouvernement. Bon, si le gouvernement ne montre rien et que veut abandonner tout entre les mains de partenaires, là, il y a un problème de la gouvernance et ça doit être corrigé. Et ça va faire à ce que nous soyons quand même respectés sur le plan international. C'est quand même, en tout cas, inadmissible qu'il y ait de déplacés dans notre pays et qu'on aille tendre la main à l'extérieur pendant qu'à l'interne, on est en train de voir comment l'argent est en train d'être gaspillé inutilement.
Merci, les détournements qu'on a décrits un peu Babazé. Et ouais. Lentement, mais sûrement, nous approchons de la fin de cette émission et nous allons commencer à chuter. Au regard de l'accroissement des nombres de déplacés internes et de la précarité de leurs conditions de vie, que faire pour soulager ces sinistrés, Madame Faïda?
Oui, je pense qu'on doit résoudre les causes profondes des crises sécuritaires, des conflits violents, et on doit combattre l'injustice. Hein? Donc on doit promouvoir la justice sociale et la dignité humaine en RDC. Et on doit aussi relancer le programme PDDRCS, parce que c'est vraiment un programme qui permet l'après-crise sécuritaire de pouvoir vivre dans une communauté où la paix, où la réconciliation est véritablement visible, parce qu'il y a beaucoup de plaies, il y a beaucoup de blessures créées au sein des communautés à la suite des crises sécuritaires, et appelées aussi à la justice transitionnelle, parce que notre pays a ratifié beaucoup d'instruments au niveau national et international, et nous sommes en droit de demander cette justice internationale, ou même un tribunal pénal spécial pour la RDC, parce que les bourreaux sont toujours là, ils ne sont pas inquiétés, alors que les vies humaines en pâtissent, et même l'avenir de la RDC est en danger à cause de ces crises récurrentes.
Symphorien Kwengo, au regard de l'accroissement des nombres de déplacés internes et de la précarité de leurs conditions de vie, que faire pour soulager les sinistrés?
Oui, merci Monsieur Jean Gandou de la question. Les déplacés internes demandent au gouvernement l'adoption et la promulgation de la loi portant protection des déplacés internes en RDC. 2. La création de la Commission nationale d'assistance aux déplacés internes, qu'on a dit RDC. 3. La création du Fonds national d'assistance aux déplacés internes, FONADI RDC. Et enfin, l'adoption et la mise en œuvre de la politique nationale sur les déplacés internes en RDC. Et pour finir, nous demandons également aux partenaires techniques et financiers que l'aide qui est mobilisée doit en principe couvrir tous les territoires nationaux. Les déplacés internes, nous parlons pour eux comme structure de plaidoyer dans l'Est, dans l'Ouest, Nord, Sud, Centre. Nous ne comprenons pas, il y a une crise alimentaire très dramatique qui est en train de sévir dans la partie Ouest, orchestrée par l'activisme de miliciens Mobondo. Mais contre toute attente, les fonds ne sont pas mobilisés. Les déplacés de l'Ouest sont oubliés, alors que nous parlons du déplacé congolais dans son ensemble, ou au pluriel des déplacés congolais, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, ils doivent avoir tous le même traitement, ils doivent tous être considérés de la même manière. Comme l'argent est mobilisé pour l'Est, nous applaudissons que les efforts soient également fournis pour pouvoir mobiliser des fonds afin d'appuyer, d'assister, de soulager la misère des déplacés internes qui sont dans l'Ouest liés à l'activisme des miliciens Mobondo.
Merci Séphorien. Jean-Claude Babazé, la même question vous est posée. Au regard de l'accroissement des nombres de déplacés internes et de la précarité de leurs conditions de vie, que faire pour soulager ce qu'ils vivent au quotidien?
Bon, je crois que le Parlement, en tout cas, devait allouer un budget conséquent pour appuyer les déplacés internes. En tout cas, tenir compte de cet aspect-là et suivre aussi jusqu'au niveau du décaissement et même de l'utilisation de cet argent-là au profit réellement de ces déplacés. Mais je voudrais aussi, en tout cas, souligner un aspect par rapport aux partenaires internationaux. Il est vrai qu'on a été mobilisé à cette aide humanitaire, mais je crois qu'il est important, en tout cas, de faire une bonne répartition des lignes budgétaires et qu'on réserve une grande partie sur l'aide, que de réserver une grande partie sur des salaires, des frais de mission, des frais administratifs qui vont bousiller tout cet argent-là et qu'à la fin des comptes, les déplacés reçoivent peut-être 10 ou 20% de l'aide qui sera mobilisée. Et là, ça ne sera pas une bonne chose. Mais également pour s'attaquer, en tout cas, aux causes. Parce que, en tout cas, pour soulager ces populations, il faut les ramener chez eux pour qu'ils aillent reprendre leur vie normale. Et là, il faut mettre fin à la guerre. Et mettre fin à la guerre signifie, en tout cas, ne pas récompenser des criminels, parce que chaque fois qu'il y a eu des guerres récurrentes dans notre pays, les criminels ont été récompensés, et cela a donné le goût à d'autres de créer encore la guerre.
Les armes,
il faut mettre fin à ce cycle.
Merci beaucoup, Madame Faïda.
C'est clair.
Juste un mot de la fin, parce qu'on est quasiment arrivé vers la fin de cette émission, Madame Faïda.
Les penseurs disent que les propres de la guerre, c'est qu'elle est sale. Et aujourd'hui, si nous sommes en train d'évoquer la question de la réponse humanitaire, parce que la guerre a détruit des vies et continue à les faire, et donc on doit tout faire pour stopper la guerre, stopper l'écoulement des sangs de Congolais, parce que la vie humaine est sacrée. Et l'État a l'obligation de la protéger, de la sécuriser.
Merci beaucoup, Madame Faïda. Je considère cela comme étant votre dernier mot pour cette émission. Et Symphorien Kwengo, votre mot de la fin sur lequel, en quelques secondes.
Merci. Et ce que nous exigeons également, c'est la gestion optimale et orthodoxe de ces fonds. Nous ne voulons pas qu'il y ait des détournements, qu'il y ait déjà cette table de frais d'émission pour pouvoir justifier cet argent, que l'aide arrive aux bénéficiaires finaux. Ces bénéficiaires finaux, ce sont
les déplacés internes par rapport à cette aide qui sont localisés dans la partie est. Nous aimerions que les bénéficiaires finaux soient plutôt effectivement assistés, qu'ils bénéficient de ces fonds-là.
Pourquoi
notre leitmotiv, c'est celui-là.
Pourquoi ne pas demander à ce que les membres de la société civile fassent partie de ce comité-là?
En principe, ça c'est un plaidoyer. Puisqu'il y a une tripartite, il y a la partie étatique, la partie partenaire bailleur de fonds et la société civile. Il y a une tripartite, donc si la société civile n'est pas impliquée dans ce qui sera fait, nous les dénoncerons le moment venu.
Merci beaucoup, Symphorien Kwengo. Je considère cela comme étant votre dernier mot pour cette émission tout au moins. Et Jean-Claude Mbabazé, votre dernier mot, c'est lequel? En quelques secondes.
Oui, la population de l'Est est travailleuse et n'est pas habituée à tendre la main ou à vivre la vie de la mendicité. Elle n'a besoin que de la paix pour que le rentre chez elle afin de vaquer librement à ses occupations. Et donc, nous avons besoin seulement de la paix.
Voilà, nous avons seulement besoin de la paix. C'est donc le leitmotiv des différentes interventions que nous avons eues au cours de cette émission Dialogue entre Congolais qui prend fin tout de suite là. Et merci à Chantal Faïda Moulenga Biouma qui est analyste indépendante et cofondatrice de Ouema ASBL, une ONG basée au Nord Kivu. Merci également à Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, mais sans oublier Symphorien Kwengo, coordonnateur national du réseau des ONG. ONG de défense des droits des déplacés internes en RDC. La mise en onde de cette émission a été assurée par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa et la réalisation de Benjamin Moudoumbi, la coordination de Guy Maté à la présentation Jean Gandou. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à plus. Bye.